Ce soir, j'avais à cœur d'insister sur ce qu'a apporté Jérôme la semaine dernière. J'ai eu à cœur de reprendre le sujet parce que, comme on l'a entendu, Dieu nous parle, on n'y prend pas garde. Alors, je vous invite de suite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18. C'est un sujet connexe, mais qui est lié. Donc au chapitre 18 et au verset 12, je lis ceci. « Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Je vous invite maintenant à prendre l'Évangile de Jean au chapitre 10, ce que nous avons d'ailleurs lu la semaine dernière. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Pourquoi une brebis peut s'égarer? Entre autres, on va voir d'autres choses, mais j'avais à cœur de le dire là avant de prêcher, c'est que les brebis qui s'égarent, elles n'écoutent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des émissions qui parlent de la transhumance, mais le berger, quand il marche devant le troupeau, il fait du bruit pour que les brebis, elles sachent où il est. Et les brebis qui suivent le suivent parce qu'elles entendent la voix du berger et le bruit qu'il peut faire. La brebis qui s'égare, elle n'écoute pas le berger. C'est une parenthèse, mais c'est un peu aussi ce qu'on va voir. Pour quelle raison une brebis peut-elle se perdre? C'est un peu la question que j'avais par rapport à ce texte. Qu'est-ce qui peut amener une brebis à se perdre? On va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et on va voir que ces facteurs que nous allons voir, ça doit nous servir, à nous, pour faire attention. Il faut que nous fassions attention justement à ne pas nous perdre. Et il faut aussi, parce que ce n'est pas une brebis qui suit un berger, c'est un troupeau. Et un deuxième volet, on va voir qu'il faut qu'on fasse attention aux autres aussi. Parce que dans le troupeau, on peut très bien voir une brebis qui s'en va. Et nous, on est aussi dans le troupeau. Alors, quelques définitions pour commencer. Et là, l'apôtre Jean nous en donne quelques-unes. La brebis, de quoi on parle? La brebis, on lit au verset 4, elle connaît la voix du berger. C'est important. La brebis connaît la voix du berger. Je ne vais pas faire référence plusieurs fois à ce que nous a dit Jérôme la semaine dernière. Mais quand on se rappelle ce qu'il nous a dit, connaître la voix du berger, c'est important. Et c'est ce qui définit une brebis. C'est ce qui définit une brebis, celle qui connaît la voix du berger. Celle qui ne connaît pas la voix du berger, ce n'est pas une brebis. On voit aussi que la brebis, elle a un nom, mais pas sur n'importe quelle condition. Pourquoi elle a un nom? Parce qu'elle appartient au troupeau. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi quelque chose de, quand on y réfléchit, quand on rentre dans le troupeau du Seigneur, Dieu nous donne un nom. Et il nous appellera chacun par notre nom. Et ce ne sera pas un nom choisi au hasard. Je vous laisse regarder la Bible dans l'Ancien Testament, comment les noms étaient choisis. C'était toujours en rapport avec la personne. Et Dieu nous a préparé un nom à nous, rien qu'à nous, qu'il nous donnera quand on ira au ciel. Et ce n'est pas un tatouage avec un numéro qu'on a, c'est un nom. Et oui, parce que les brebis, elles sont tatouées. C'est plus simple, mais nous, on aura un nom. Et il connaîtra chacun de nos noms. Ça fait du monde sur la terre, et pourtant, il ne se trompera pas. Comme je disais tout à l'heure, la brebis, elle doit suivre le berger, en écoutant sa voix. Et elle sait faire la différence entre la voix du berger et les autres voix. Là encore, je ne reviens pas sur ce que Jérôme a dit la semaine dernière, mais qu'il nous est important de faire attention aux voix qu'on entend et de suivre seulement celles du berger. Enfin, Jésus nous parle dans ce passage qu'il est la porte de la bergerie. Et pour faire partie de cette bergerie, il faut bien y entrer une fois, il faut passer par la porte. Et la porte, c'est la croix, la porte. La porte, c'est Jésus et la porte. Jésus, on ne peut rentrer dans ce troupeau qu'en passant par la croix du calvaire. Je peux vous rappeler aussi ce qu'on peut lire dans l'Exode, où le peuple d'Israël devait mettre du sang sur les linteaux des portes. C'est le même symbole. C'est qu'on est sauvé, on ne fait partie du troupeau de Dieu que quand on est passé par la porte, que quand on est passé devant la croix et qu'on s'est repenti pour nos péchés. Donc, les gens qui sont dans la religiosité, les gens qui viennent là par sympathie, ne font pas partie du royaume de Dieu, parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. La porte, c'est la croix, et il faut absolument passer par ça. La croix, c'est la justification par rapport à nos péchés. Par la croix, nous savons que nous sommes pardonnés de nos péchés. La croix, c'est aussi la mort du pécheur. Ça veut dire qu'à la croix, on va laisser tout ce qui nous attire dans ce monde pour le mettre à la croix, que, comme l'a dit Nicolas, nous puissions être, entre guillemets, crucifiés avec Christ, parce que nous décidons de suivre Jésus. Et la croix, c'est aussi la victoire qu'on peut remporter sur le monde, parce que tout ce qui peut nous attirer, finalement, ne nous attire plus. Pour vous donner un petit exemple, ma femme en est témoin, elle pourra vous le dire. Le samedi soir, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir les résultats de la Ligue 1. Parce que j'étais accro, parce que je suivais mon club de cœur, entre guillemets, et il fallait que j'aille voir les résultats. Et si le club avait gagné, j'étais content pour ma semaine. C'est ridicule, vous me direz. Mais combien de choses... combien de choses peuvent nous attirer et nous détourner de ce qu'il faut? Là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis complètement délivré. Je peux passer 1 euro sans regarder un match, s'il faut, il n'y a pas de problème. Et pourtant, avant, c'était un problème. Ça fait partie des choses qui, quand on décide de les donner au Seigneur, après, c'est ce qu'on se disait aussi avant la réunion, c'est qu'on n'a même plus envie. On n'a même plus envie. Je vous pose cette question, et je me pose aussi cette question, est-ce que je suis une brebis du Seigneur? C'est déjà une première chose. Est-ce que je suis passé par la porte? Le berger. Le berger, il a un but, c'est d'amener les brebis dans la montagne, vers les verts pâturages. C'est complètement logique. Pourquoi les brebis vont à la montagne? Parce que dans la vallée, quand il fait chaud, il n'y a plus d'herbe. Quand il fait chaud, l'herbe elle est cramée, les brebis ne peuvent pas se nourrir. Et il faut que le berger amène le troupeau à la montagne, dans les verts pâturages. Et aller à la montagne, ça veut dire beaucoup de choses. Pour les brebis, aller à la montagne, c'est une sacrée perte de manche. C'est pas simple. Que nous dit Jésus ? Au verset 16 de cet évangile de Jean, chapitre 10, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus veut tous nous amener à la montagne. Et il va faire toutes les bergeries pour aller chercher toutes celles qui lui appartiennent. Le berger, il a deux instruments qui n'en sont qu'un finalement, c'est le bâton et la houlette. Alors le bâton, c'est ce qu'il y a en bas de la houlette, et la houlette, c'est le crochet. J'ai regardé, je me suis renseigné dans les encyclopédies sur comment le berger pouvait utiliser cette houlette, et j'ai vu quelques petites définitions. Quand le berger suit le troupeau, le bâton lui permet de donner une impulsion aux brebis pour les diriger selon le chemin qu'il veut qu'elles suivent. Ça, c'est le bâton, et quand le berger est derrière. Et quand la houlette, elle a plusieurs fonctions, et beaucoup d'ailleurs. Mais donc les houlettes anciennes, elles sont des instruments donc recourbés et qui permettent plusieurs choses. Entre autres, par exemple, le berger va ramasser des mottes de terre. Quand il voit qu'une brebis, vous avez le troupeau qui marche, et à un moment donné, il y en a une qui s'en va un peu à droite. Et là, il va prendre une motte de terre, et il va la mettre dans sa houlette, et il va la lancer en direction de la brebis. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est comme la brebis, c'est un animal qui est très craintif, il va voir la motte de terre, et elle va avoir peur, et hop, là, elle va retourner dans le rang. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Job. Chapitre 33, verset 14. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Dieu nous lance des mottes de terre pour qu'on rentre dans le troupeau parce qu'il voit qu'on est en train de s'égarer et on ne fait pas attention. Ça, c'est la houlette. Deuxième fonction de la houlette, c'est que cette houlette, elle permet d'attraper les brebis, les pattes, par exemple celles qui sont blessées, ça permet au berger de travailler pour soigner la blessure. Comme on l'a vu aussi sur beaucoup de dessins, la houlette, c'est ce qui permet aussi au berger de rattraper la brebis qui est tombée. Dans le ravin, par exemple. Et grâce à cette houlette, la brebis se sent en sûreté parce qu'elle sait que si jamais elle devait se blesser, si jamais elle devait être amenée à s'égarer, finalement, cet instrument qui sert à la reprendre, eh ben, elle le prend comme une bénédiction. Est-ce que la houlette du Seigneur, on l'a en bénédiction? Nous qui sommes des brebis, on pourrait se dire, la houlette, moi, j'en veux pas. La houlette, le berger, il s'en sert toujours pour me faire peur, il va s'en servir, etc. Mais la houlette, c'est l'instrument que le berger a pour justement permettre que la brebis ne s'écarte pas. Le but du Seigneur, c'est de nous amener à la montagne. Maintenant, on va lire le psaume 23. J'aurais envie de dire que ce psaume 23, c'est la déclaration de la brebis avant le voyage. De la brebis qui aime le Seigneur de tout son cœur. Parce que ce psaume 23, c'est pas un psaume qu'on récite. Ce psaume 23, c'est une vraie parole de foi. C'est une confession de foi, ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Remarquez à quel temps sont employés les verbes. C'est un peu de l'analyse, mais le temps, c'est du français, du présent, pardon. Les verbes sont employés en présent parce que David, il se projette déjà. David, il voit déjà la montagne. Il se voit déjà dans les verts pâturages, mais il n'y est pas encore. Mais il sait. Déjà, en avance, par la foi, il sait que Dieu veut l'emmener là. Et il sait qu'il va y arriver parce qu'il fait confiance à Dieu. Est-ce que nous, on vit dans cet état d'esprit? Ce psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est des choses, on sait qu'ils vont arriver. Des fois, dans notre vie, on traverse des difficultés. Dans notre vie, on a des épreuves. On peut traverser le deuil, on peut traverser la maladie, on peut traverser l'abandon. On peut traverser plein de choses qui finalement sont loin d'être des verts pâturages. Et pourtant, un chrétien qui fait confiance au Seigneur peut dire et affirmer « Il me fait reposer dans de verts pâturages » par la foi. Je continue. « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Je m'arrête là. La brebis veut suivre. le berger. Et par la foi, elle croit dans toutes les promesses du berger, comme quoi le berger va l'amener dans de verts pâturages. Ce psaume 23, il faut qu'on prenne une décision ferme dans notre vie de le suivre. Et c'est une décision, c'est pas quelque chose qui dit « Ah tiens, je vais bien en ce moment, c'est bien, je suis dans un vert pâturage ». Non, c'est vraiment une décision qu'on va prendre de dire « Voilà, même quand ça va pas aller, Seigneur, je te fais confiance ». Et nous, qu'est-ce qu'on voit ? David nous parle de ça, mais Jésus, lui, nous parle d'autre chose. C'est un peu l'inverse. Jésus va nous parler d'une brebis qui, elle, s'est égarée. C'est une joie de partir. La Bible dit « Vaut mieux le début d'une chose que... vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, pardon. » C'est bien de partir. C'est bien d'être passé par la porte et de se dire « Cool, on va à la montagne. On fait partie du troupeau, tout va bien. » Mais le chemin est long. On l'a vu dans le psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Il faut y passer aussi. Et le chemin de la montagne, c'est pas un chemin facile. Comme le peuple d'Israël, tous sont sortis d'Égypte. Combien sont arrivés à Canaan ? 2. Josué et Caleb. Sur tout le peuple qui est parti d'Égypte, seulement 2 sont arrivés. On peut tous partir, on peut tous passer à la croix et prendre cette décision. Et pourtant, voilà, on est 2 seulement arrivés. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Maintenant, on en arrive à notre sujet, l'égarement. Comment une brebis se perd-elle ? Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, on l'a entendu, chapitre 10 au verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et ça s'adresse à nous tous. Alors, j'ai réfléchi sur les raisons qui peuvent amener les brebis à se perdre et j'ai vu 2 catégories. Une première catégorie, je dirais, c'est à cause de la brebis elle-même. Et la deuxième catégorie que je vois, qui peut faire qu'il y ait un égarement, c'est à cause d'un élément extérieur. La fatigue, une blessure, à cause de quelqu'un. Alors dans ce premier volet, à cause de la brebis, comme on l'a vu tout à l'heure, Dieu nous parle et on ne fait pas toujours attention à ses paroles. Et quand on n'écoute pas le berger, on va finir par se perdre. Un jour, j'ai connu un jeune garçon et une jeune fille qui voulaient se marier. Et tout leur entourage chrétien les avait dissuadés de se marier en leur disant « Si vous vous mariez, vous divorcerez. » En gros, je vous la fais courte, mais c'était le message et j'en ai fait partie. Je leur ai dit, si vous vous mariez, vous allez divorcer. Et ils n'ont pas écouté. Et ils se sont mariés. Et 3 ans après, ils ont divorcé. À un moment donné, Dieu met sur notre chemin des personnes. Dieu peut mettre sur notre chemin des prophéties, comme on l'a entendu ce soir. Dieu peut mettre sur notre chemin des textes dans la parole de Dieu, dans sa parole, pour nous aiguiller. Et nous, on est là, Seigneur, quelle est ta volonté ? Quelle est ta volonté ? C'est écrit dedans, qu'est-ce que tu fais à te poser la question ? Et on est là parce qu'on a nos œillères et on veut absolument que ce soit notre volonté qui soit faite, mais après tout, on demande quand même, pour faire bien, Seigneur, quelle est ta volonté ? Mais Dieu ne va rien dire de plus. On peut demander à Dieu quelle est sa volonté, mais si on le sait déjà, il ne va pas se répéter. Dieu, il a une et une seule parole. Il ne va pas... dans sa grâce, Dieu va nous prévenir plusieurs fois, il va nous jeter des mottes de terre, mais à un moment donné, la brebis qui cherche à partir, eh bien, elle part. Imaginez une brebis. C'est un autre aspect de ce départ de la brebis. une brebis qui marche sur le troupeau et puis qui a faim. Et puis sur le passage, elle va voir un fabuleux baie à manger. Elle se dit, tiens, les autres, ils ont pas vu. Moi, je vais peut-être aller manger, voir ce qui se passe par là-bas. Et hop, 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 la brebis commence à s'écarter, puis elle va manger les baies. Et puis, elle ne se rend pas compte. Sa laine se prend dans un roncier. Et là, elle se retrouve coincée dans le roncier. Elle a mangé ses baies, certes, c'était bon les baies, mais maintenant qu'elle veut repartir, elle peut plus. Le roncier l'attire à elle. Et plus elle se débat, et plus elle se met dans le roncier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est pareil. Et des fois, on voit des choses. Un bon film, comme on l'a entendu tout à l'heure. Un bon film, quoique s'il est violent, c'est pas forcément un bon film. Mais on est attiré par des choses. Et on ne se rend pas compte, derrière, il y a le roncier qui va nous retenir. Et il y a le roncier qui nous empêchera de revenir dans le troupeau parce qu'on sera coincé. Alors si je continue dans cette image, un jour, ce qui va se passer, cette brebis, elle est attachée au roncier. Et si un loup vient, il va la tuer, il va la manger. Est-ce que c'est le roncier qui la tue? Non, c'est le loup. Mais par contre, le roncier l'a bien retenu. Il y a des choses. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on peut tous aller vers des ronciers. Ces ronciers, en quelque sorte, ne sont pas forcément de mauvaises choses. Par exemple, regarder la télé, c'est pas mauvais en soi. On peut regarder la télé. Mais si la télé prend la première place dans notre vie, on peut aller flâner sur Internet. C'est pas interdit. Mais si on perd notre temps dessus et qu'on ne peut plus entendre la voix du berger, c'est un roncier. C'est pas ça qui va nous tuer. Mais par contre, on prend de grands risques. Parce que derrière, le loup arrive. Quant à la nourriture, de quoi on se nourrit? Il y a des baies qui peuvent paraître bonnes, mais qui sont absolument empoisonnées. De quoi on se nourrit? Jésus, il a dit au chapitre 6 et au verset 35, on peut le lire, c'est important. Jean 6, 35. « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors le problème, c'est pas de savoir si on sera rassasié par Jésus. Le problème, c'est est-ce que je veux être rassasié par Jésus exclusivement? Bien souvent, on a envie d'aller manger autre chose. Les Israélites, ils ont réclamé les cailles, ils ont réclamé plein de choses, et ils ne voulaient pas de la manne. À la fin, ils ont même râlé contre cette manne qui pourtant descendait du ciel. Quand on y réfléchit, c'est fou. La nourriture qui vient de Dieu, ils n'en voulaient pas. Et combien sommes-nous à ne pas vouloir lire notre Bible? Combien sommes-nous à ne pas vouloir nous nourrir de choses spirituelles et vouloir nous nourrir de films et autres qui vont nous écarter de Dieu? Quand on a regardé un film, même s'il est bien, j'ai pas forcément envie de lire ma Bible après. Parce que mon âme a été nourrie par ce que j'ai vu. Et j'ai pas envie d'aller me renourrir dans la Bible, parce que ce que j'ai vu m'a déjà nourri. J'ai plus faim. Où est-ce qu'on se nourrit? Quelle est notre source de nourriture? Est-ce que c'est sa parole? Ou est-ce que c'est d'autres choses? C'est des baies, entre guillemets, empoisonnées qui vont nous éloigner de lui. La brebis, elle peut aussi tomber dans un ravin. La montagne, c'est un chemin étroit. Et plus on monte, et plus c'est étroit. Alors, imaginez un troupeau qui doit passer. Alors, le berger, il fait attention. Il connaît les routes, il connaît les sentiers. Il sait par où le troupeau doit passer pour être en sécurité. Mais une brebis qui s'écarte, elle ne connaît plus. Elle ne sait pas où elle va marcher. Elle ne sait pas que si elle s'approche trop près du bord, elle va tomber dans un ravin, parce qu'elle ne sait pas qu'il y a un ravin. Et ça nous parle de ceux qui finalement veulent en faire qu'à leur tête. Il y en a qui consultent la Bible des promesses, la Bible self-service, comme on dit, où on prend un peu ce qu'on veut, on fait notre petit truc, et puis ça va aller comme ça. Mais la Bible, il faut la prendre en entier. Chacun veut suivre sa voie, chacun veut faire ce qui lui plaît, mais en poursuivant dans cette voie, on va tomber dans un ravin, on va se perdre. Je continue parce que l'heure tourne. La brebis peut s'égarer aussi à cause d'un élément extérieur. Et pour ça, c'est important de revenir à Matthieu 18. Et je lis à partir du verset 3. Oh, je ne vais peut-être pas tout lire. Vous le lirez chez vous. Mais du verset 3 jusqu'au verset 11, il est question des scandales. Du verset 3 jusqu'au verset 11, Jésus met en garde de mépriser un seul de ses petits. Alors, il est question des enfants, mais Jésus parle souvent d'une manière différente et il est aussi question d'enfants spirituels. Par exemple, un frère, une sœur qui vient de se convertir, est-ce que nous faisons attention à ne pas les scandaliser ? Jésus enchaîne avec cette parabole, cette brebis perdue, juste après. Les brebis qui viennent d'arriver dans le troupeau ont beaucoup plus de chances, entre guillemets, de se perdre que celles qui sont depuis longtemps, celles qui sont bien affermies. Et par le comportement de celles qui sont bien affermies, les nouvelles qui arrivent peuvent être choquées, peuvent être scandalisées. Combien on a entendu, je suis sûr que dans votre entourage, vous avez tous entendu des personnes, moi j'en ai dans ma famille, ils ont été piétinés par des comportements de chrétiens, et finalement ça a été une bonne excuse pour dire bah, « si c'est comme ça, moi l'église, je n'y vais pas ». Est-ce que je suis seul à avoir connu ça ? Non. C'est pareil, dans le troupeau, il y a des brebis qui sont fortes, il y en a qui sont faibles. Et ce que le Seigneur Jésus veut, c'est que tout le monde arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va marcher au pas des plus faibles. Et il faut qu'on supporte les plus faibles. Parce que si on ne supporte pas les plus faibles, elles vont se perdre. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Est-ce que nous sommes prêts des fois à supporter monsieur ou madame un tel qui nous énerve un peu, mais finalement, c'est une brebis du Seigneur. Et on n'a pas le droit de la mépriser. Parce que Jésus le dit. Je lis dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Quand j'étais plus jeune, j'étais étudiant, j'étais à Lorient à l'époque, et il y avait un jeune de Saint-Brieuc qui était venu à Lorient. Mais ce jeune, il aimait Dieu, mais il était pénible parce qu'il avait un caractère assez particulier. Et il était souvent tout seul parce que du coup, les gens venaient pas vers lui parce qu'il était, justement, il avait ce petit caractère qui faisait que les gens appelaient. Et c'était pas. Et voilà, il avait un humour particulier, il était des fois un peu bizarre, mais c'est pas du tout méchant. Et c'était quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur. Il était comme il était. Et moi, j'étais étudiant et Dieu m'avait mis à cœur, justement, d'aller vers lui. Et j'ai passé des repas et des repas avec lui. Dieu m'avait mis à cœur ce jeune. Et à Lorient, justement, il m'a avoué une fois qu'il était parti. L'église où je me suis le plus plu, c'était à Lorient. Parce qu'il s'est senti accueilli. Et c'est pas parce que c'est moi, mais l'exemple que j'ai donné a permis à d'autres aussi d'aller vers lui. Et finalement, il s'est super bien intégré au groupe de jeunesse. Et voilà, il a vraiment apprécié d'être parmi nous à Lorient dans ce groupe. Il était avec son caractère, mais Dieu nous demandait de l'accueillir tel qu'il était. Dieu nous accueille tel que nous sommes. Heureusement que Dieu n'attend pas de nous que nous ayons atteint un niveau intellectuel ou spirituel qui soit un certain niveau, parce que ce serait injuste. Parce qu'on ne part pas tous du même niveau. Dieu nous aime tous et Dieu veut que nous soyons prêts à supporter ceux qui sont pénibles. Qu'est-ce qui peut égarer la brebis aussi ? C'est la fatigue, c'est les blessures. On peut très bien aussi avoir nos faiblesses. Et on va vivre quelque chose qui va nous décourager. Et on va s'enfermer, on va tomber dans un piège et on peut s'écarter. Et c'est là qu'on a besoin justement des frères et des sœurs qui vont nous entourer, qui vont nous exhorter, qui vont nous encourager. Et c'est ça aussi la communion fraternelle. Ça fait partie de toutes ces choses, ça fait partie de ce rôle du troupeau finalement, de faire en sorte de rester uni, que ce troupeau aille tout entier jusqu'à la plaine. La communion fraternelle est importante. Que fait une brebis quand elle est perdue? Elle bêle, je pense. Je pense pas trop me tromper. Ça me fait penser à des enfants qui sont perdus. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont perdus dans un supermarché ou je ne sais pas quoi? Eh bien, ils pleurent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leurs parents. Et puis c'est tout. Parce qu'elles savent qu'elles ont, elles veulent retrouver leurs parents. Et ils se sont perdus. Et ils veulent retrouver leurs parents. Et une brebis qui est perdue, qui va-t-elle appeler? Une vraie brebis du Seigneur qui s'est perdue, elle va appeler à Christ. Alors il y a des prières qu'on ne fait pas forcément. C'est le Saint-Esprit qui fait ses soupirs inexprimables. Mais dans son fort intérieur, une brebis qui est perdue appelle à l'aide et elle appelle Christ. C'est ce qui nous montre aussi que cette brebis perdue, c'est quelqu'un qui a fait partie du troupeau un jour. Cette brebis perdue, c'est nous. C'est à nous de faire attention de ne pas nous perdre. Et c'est à nous de faire attention à ceux qui peut-être sont perdus pour les ramener dans le troupeau. Si tu es perdu, tu peux appeler Jésus à l'aide parce qu'il viendra te chercher. Il viendra te secourir là où tu es. Il te connaît parfaitement, il t'a donné un nom. Et comme c'est écrit, il n'hésitera pas à laisser le troupeau dans la montagne pour venir te chercher là où tu te trouves. Le Seigneur Jésus te cherche et le Seigneur Jésus veut que tu sois avec le troupeau et que tu ne restes pas perdu là où tu t'es perdu. Le Seigneur Jésus te tend la main. Peut-être que parmi nous, vous avez abandonné Jésus pendant plusieurs années, que vous revenez. Le Seigneur Jésus vous accueille à bras ouverts. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous sur cette croix. Il est mort pour nous et il nous veut à lui. Il nous veut à lui. Si par contre tu as été une occasion de chute pour ton frère, pour ta sœur, si par exemple tu es en froid avec un tel ou une telle, même plus qu'en froid, ou on va aller plus loin, ou vous vous êtes fait du mal et vous avez besoin de vous demander pardon, qu'est-ce qui va se passer si vous ne demandez pas pardon? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train de vous perdre. Et celui qui ne pardonne pas, il se perd, et un jour, il tombera aussi dans un ravin. Celui qui ne pardonne pas, c'est une brebis qui est en train de se perdre, au même titre qu'une brebis perdue normale. C'est quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui refuse de se mettre en règle et de rester dans le chemin, parce que Jésus a aussi dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Le troupeau marche sur le chemin, mais si on ne marche pas sur les traces de Jésus, si on ne le suit pas, on n'est plus dans le troupeau. Ça veut dire que celui qui ne pardonne pas, il a commencé à s'égarer. Il n'est plus dans le troupeau et il se met dans une situation dangereuse. Pardonner, c'est la base. Pardonner, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande parce que, pas pour qu'on pardonne, mais pour qu'on puisse être dans le troupeau, pour que l'un et l'autre soient dans le troupeau. Le pardon a un pouvoir, il y a une puissance dans le pardon parce que Jésus nous a pardonné à la croix. Mais nous aussi, on doit pardonner aux autres. Comment fait le berger pour retrouver la brebis qui s'est perdue? Eh bien, il faut qu'il entende la voix de ses brebis. C'est justement celui qui s'est perdu qui se rend compte et qui va appeler à l'aide. Dans le psaume 51, verset 17, je lis ceci. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Une brebis qui s'est vraiment perdu et qui est consciente de son état, va appeler Jésus et Jésus ne pourra rien faire d'autre que de l'accueillir parce qu'il ne trahira pas sa parole. Est-ce que nous sommes prêts à ces choses? Est-ce que nous sommes prêts à faire attention à ces brebis qui nous entourent et qui peut-être sont faibles? Est-ce que le Seigneur aussi a préparé nos cœurs pour que nous puissions faire attention quand il nous parle? Combien de fois voilà, comme on l'a entendu la semaine dernière, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de flirter avec le péché et une fois de plus, le Seigneur vous dit « Attention, si tu continues, tu vas vraiment te perdre. » Ce que le Seigneur poursuit, c'est que nous puissions aller dans cette prairie, comme on l'a pu le lire dans ce psaume 23. Ces verts pâturages dans lesquels Dieu veut nous amener. Ces verts pâturages où on pourra manger de l'herbe à satiété, entre guillemets, et où on sera bien, parce que c'est l'endroit où le troupeau est le mieux pour passer l'été, et le Seigneur nous veut auprès de lui. Est-ce que finalement, on veut vraiment le suivre? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à vouloir le suivre? Est-ce qu'on est prêt à vouloir mettre de côté ce qui peut nous attirer sur le chemin extérieurement et avoir nos yeux fixés sur le berger et sur sa voix? Je vais prier. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce et te louer parce que ton désir, c'est que nous soyons tous avec toi. Seigneur Jésus, que nous soyons perdus, nous voulons te prier pour ceux qui sont perdus. Nous te prions pour ceux qui t'ont connu et qui sont dans la détresse et puis qui t'appellent au secours sans même le savoir. Nous te prions pour eux, pour que tu puisses te révéler à eux et permettre qu'ils puissent revenir dans le troupeau. Comme tu nous l'as promis, tu nous as promis que tu irais chercher la brebis perdue. Cette parabole est aussi une promesse que tu nous fais, que celui qui est perdu, tu vas aller le chercher. Et combien avons-nous dans nos familles, dans nos proches, des gens qui sont perdus, des brebis perdues? Quelle grâce de savoir que tu nous as laissé cette promesse, que tu allais faire tout ce qui était possible pour ramener cette personne. Seigneur, nous te prions pour ces personnes, nous te prions pour nous-mêmes, Seigneur, pour que tu nous aides à rester dans ce troupeau, que nous puissions ne pas tomber et que nous puissions être bienveillants envers ceux qui nous entourent, qui peuvent être dans la difficulté. Merci de ta grâce, Père. Loué sois-tu, Jésus. Amen.